Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 28 avril et en effet, nous allons nous plonger dans des réflexions propres à cette question « Sauver l'école ?» point d'interrogation, puisque c'est le titre du livre que je vous présente aujourd'hui. Je ne vous apprendrai rien en disant que depuis plusieurs années, les classements internationaux placent l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles en bien piètre posture, malgré l'argent investi et une somme de bonne volonté. Alors la faute à qui ? Aux politiques ? Aux profs ? À l'administration ? Aux parents ? Aux élèves ? À la crise ? Bref, je ne vous demanderai pas de répondre à cette question, parce que là on rentre dans la polémique et je pense que vous étiez nombreux à suivre le débat de Benjamin Maréchal ce matin avec l'actualité. Là il y avait une actualité en cours, ici pas d'actualité, c'est vraiment quelque chose, et comme je vous ai présenté John Rizzo, ça fait trois ans que vous vous intéressez à notre scolarité, au système scolaire en Belgique et que vous avez des choses à dire. Alors, après avoir consacré, John Rizzo, de nombreuses années de votre vie à l'enseignement de l'informatique, vous décidez donc de dédier l'essentiel de votre temps à l'étude des arcanes du système scolaire belge. Et au fil de vos recherches, vous avez rencontré les acteurs clés de notre système éducatif, vous avez formé des demandeurs d'emploi et vous avez fini au cœur des classes comme instituteur au service d'une panoplie d'écoles wallonnes et bruxelloises en tout genre, en vous demandant comment redonner aux futurs adultes un avenir réjouissant. Et là, dans l'introduction, vous annoncez déjà la couleur. John, bonjour tout à l'heure.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Bienvenue John, je pense qu'on va vraiment mener une belle réflexion avec vous. Vous dites, d'entrée de jeu, à la page 0 du livre, mes meilleurs alliés dans ce voyage sont les profs courageux, les pédagogues d'exception, les éducateurs empathiques, les bénévoles dévoués et les directeurs inspirants qui en ont marre de la médiocrité, qui en ont marre aussi qu'on ressasse toujours la même chose. Tout va mal dans l'enseignement. Contre vents et marées, chacun sur leur navire, dites-vous, ils espèrent trouver un meilleur port. Et vous terminez en disant, puisse ce récit leur donner quelques idées et une pincée d'espoir. C'est dans ce but-là, dans cette mission-là que vous vous êtes investi en écrivant ce livre, John.
Exactement, j'ai voulu en fait donner un regard extérieur parce que je suis là un peu entre beaucoup de choses. Je suis un peu entre le public et le privé, je suis entre l'éducation des adultes et des enfants, ouais. Je suis entre pédagogie active et plus traditionnelle. Mm-hmm. Et donc parfois en prenant un peu de recul, on se rend compte que faire plus de la même chose, mettre des coups de tournevis dans un système, ça ne marchera pas. Il faut inventer autre chose.
Mm-hmm. Oui, vous m'avez dit en préparant l'émission, et pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable d'inventer l'ampoule électrique? Donc c'est ça, reprendre vraiment à zéro, quoi. C'est
tout
un
à fait,
peu
on n'a pas inventé le smartphone en améliorant le téléphone.
Non.
Il faut inventer autre chose.
Inventer autre
et
chose.
Et je pense que...
Mais vous vous basez quand même sur ce qui existe déjà.
Exactement.
En l'améliorant. Ben,
forcément, quand j'ai l'expérience au cœur des classes, je ne peux pas tout chambouler non plus, surtout quand je suis remplaçant.
Oui. Donc, ce que vous avez été.
Exactement.
Prioritairement.
Donc, je pense qu'un des mérites de cet ouvrage, s'il en a, c'est de montrer qu'avec ce qui existe, on peut progressivement aller vers autre chose. Il ne faut pas forcément une nouvelle école idéale à reconstruire depuis zéro.
Oui. Et surtout se baser sur ce qui existe ailleurs, même si on aura l'occasion d'en parler, mais on ne peut pas tout révolutionner. En Belgique, voilà, ça se passe comme ça, on ne peut pas tout changer, mais malgré tout, essayer d'aller chercher ce qui va bien ailleurs aussi.
Mais on voit, enfin, j'ai regardé les livres sur l'enseignement belge, évidemment, mais j'ai regardé aussi beaucoup à l'extérieur, j'ai voyagé,
ben oui.
Et je constate que partout dans le monde, il y a une tendance commune, qui convergent pour transformer l'école qui ressemblait peut-être il y a 100 ans à une caserne vers une école qui ressemble plutôt à une bibliothèque.
Aujourd'hui, ouais. Qui donne l'envie.
Tout à fait.
Surtout l'envie.
Dire qu'on va prendre 25 élèves, les mettre dans une classe, à la porte fermée, avec un seul prof, qui va parler en disant aux élèves « Assis et tais-toi
», Ça ne va plus être possible très longtemps.
On essaie de le faire, mais il y a beaucoup de gens que ça fait souffrir, et les profs et les élèves.
Ouais. Et ben voilà, ça c'est déjà du concret. Donc on va demander aujourd'hui aux parents, aux enseignants, bien sûr, aux jeunes, 13h15, ça va être difficile, mais de venir prendre la parole. Nous sommes à la recherche de réponses, puisque... Et vous aussi, même si vous en avez beaucoup au fil beaucoup écrit noir sur blanc au fil des pages, mais votre titre reste « Sauver l'école point d'interrogation. Le déclin de l'école est-il inéluctable? Doit-elle être réformée? Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut repartir de zéro, réinventer l'ampoule électrique, comme vous dites, et bâtir un système adapté aux besoins modernes et aux nouveaux modes de communication? Vous venez de le dire, rester assis pendant autant d'heures en suivant, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore inscrit dans les gènes de nos jeunes, de nos enfants? On attend donc des témoignages au 070 23 33 23, SMS 30 63. Venez nous prouver surtout qu'il y a quantité de profs qui ont envie de transmettre, l'envie d'apprendre, plein de bonne volonté, d'initiatives citoyennes aussi, qui veulent améliorer les choses, et vous en parlez au niveau de votre livre. C'est parti. Ouais, nous parlons de l'école aujourd'hui. Sauver l'école, l'école en tout genre. Voilà. Et nous ne sommes pas, encore une fois, braqués sur l'actualité. Désolé de faire intervenir ce thème alors que Benjamin a fait une émission à ce sujet là-dessus. Nous, on est beaucoup plus large. Voilà. On balaie, on ratisse un peu plus large. On parle surtout des outils pédagogiques. Ici, les outils pédagogiques, ce livre, il est sorti il y a un mois. Sauver l'école par John Rizzo, qui est spécialiste de la collaboration aussi entre élèves et de l'usage d'Internet en classe. Fondateur de toujoursplus.be, auteur de ce livre Sauver l'école, et Sauver l'école a même un site internet, sauverlecole.be, et vous serez en conférence aussi, John Rizzo, à deux endroits dans la région de Charleroi, à Gilly et à Auderghem. Voilà, nous parlons avec les parents, avec les enseignants bien entendu aujourd'hui, nous parlons de la pédagogie active, vous en parlerez bien entendu, qu'est-ce que vous entendez, là je m'adresse aux parents ou aux enseignants, par pédagogie active, par école mutuelle, voilà, qu'est-ce que ça sous-entend ces mots-là chez vous, dans vos expériences personnelles. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? 070 23 33 23 SMS 3060. Et John Rizzo, auteur de ce livre Sauver l'école chez Care Edition. On met l'école du bon côté cet après-midi. Vous dites dans votre livre, tout au long de mes remplacements, j'ai invité mes élèves à entreprendre, à se prendre en main. J'ai commencé par fermer le robinet des explications. Je me suis tue. Cela a forcé les enfants à se parler et à organiser leur apprentissage. Ne recevant plus rien, ils ont dû chercher et prendre. Je pense qu'on est déjà dans la pédagogie active. Vous aurez l'occasion de définir dans quelques instants. Vous arrivez, donc on vit un petit peu votre expérience au fil de vos remplacements. Comme vous dites dans la première partie, vous arrivez dans votre première école, John, et là, ben voilà, il y a quelque chose qui a déjà été mis en place puisque vous assurez un remplacement. Et il y a quelque chose avant vous, quelqu'un. Une institutrice, je pense.
Tout à fait, oui.
Qui a déjà bien fait son boulot, et vous sentez que vous arrivez dans une classe qui est bien organisé.
Oui, exactement. C'est une classe de deuxième primaire. Mm-hmm. Mais malgré que j'enseigne toute ma vie, c'est quand même la première fois que j'entre dans une classe d'école de deuxième primaire. Donc
oui,
je suis impressionné.
Vous avez enseigné à des adultes, hein, donc avant
fait,
ça,
oui.
Voilà.
Et j'ai pas tout voulu chambouler. J'ai d'abord essayé de, un peu en mode survie, si je puis dire, apprendre mon métier grâce à ma collègue extraordinaire qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup préparé les photocopies avec moi. Et j'ai remarqué des choses quand même qui ne me convenaient pas, mais j'ai pas pour autant, dans cette école-là du moins, chamboulé les pratiques. Alors la chose principale qui ne me convenait pas, c'est que nous avions au premier rang Ahmed, qui était extrêmement rapide et qui avait déjà fini son premier exercice depuis longtemps et qui s'arrête. Alors je vais le voir, je dis ben pourquoi est-ce que tu t'arrêtes?
J'ai fini.
Mais il avait devant lui cinq photocopies avec je ne sais pas combien d'exercices et il s'arrête au premier exercice. Mais qu'est-ce que tu attends? J'attends le signal. Le signal pourquoi?
Pour continuer.
Pour que vous m'autorisiez à continuer. Donc il était dans un mode vraiment simultané où tous les enfants doivent absolument avancer en même temps. Et pendant ce temps, Yasmina ne comprenait déjà pas l'énoncé du premier exercice. J'ai dit Ahmed va aider Yasmina évidemment.
Donc directement vous lui dites ça. Va aider Yasmina.
Oui.
Tu peux te lever, tu peux aller aider Yasmina.
Vous auriez dû voir sa tête.
Ah mais j'imagine.
Il ne me croyait pas qu'il pouvait se lever et aller parler alors que les autres continuaient à travailler. Donc voilà. Alors forcément ses voisins assez vite ont voulu faire la même chose parce qu'ils avaient fini également. Et donc tout ça prend plus de temps, mais au moins chacun, comment dire. Chacun est utilement occupé et on tire chacun le plus haut possible. Mmh. Évidemment, moi, alors, je prenais en plus des maladresses de débutants que je pouvais faire, je prenais du retard sur le programme.
Ah. Oui. Oui. Alors qu'il fallait avancer. Mais tout de suite, vous dites, je suis en effet impressionné. Ce qui me chiffonne, c'est cet écart abyssal, comme vous l'appelez, qui sépare les plus avancés des plus lents. Il y a un énorme écart. Quoi.
C'est pas qu'un écart de niveau, c'est un écart de vitesse. Et ça, je pense que c'est très important à comprendre. Tous les parents qui ont, par exemple, des enfants HP doivent absolument comprendre ça. Et je pense que la plupart l'ont déjà compris. Qu'ils aient 66 ans ou qu'ils aient 6 ans, j'ai toujours remarqué que le plus rapide de la classe, si on le laisse faire, va trois fois plus vite que le plus lent. Alors, sachant ça, qu'est-ce que je dois faire? L'article 29 de la Convention des droits de l'enfant nous dit bien qu'il faut pousser les dons, les attitudes de chaque enfant au maximum de leur potentialité. Donc, je dois les faire avancer chacun à leur vitesse au maximum. Mais comment faire si je fais des explications collectives qui obligent tout le monde à m'écouter à la même vitesse?
Oui.
J'ai parfois vu des collègues qui me montraient que j'étais par hasard en classe, une classe de première primaire, et elles engueulaient un élève parce qu'il a été au sous-exercice numéro 1.2, alors qu'elle expliquait encore le 1.1. Et donc forcément, qu'est-ce que Ahmed va apprendre comme ça? Ahmed va apprendre à s'ennuyer. Et quand l'école requerra un réel effort de sa part en secondaire, par exemple, il n'aura pas appris à faire un effort, justement. Et Yasmina, qu'est-ce qu'elle va apprendre? Qu'est-ce qu'on va faire avec Yasmina? On va lui donner rattrapage le mercredi après-midi, le soir, chez Cogito, par exemple, pour le week-end. Elle va apprendre à détester l'école.
Bon, c'est déjà une première réflexion et ça arrive au niveau des messages. C'est une maman, je suppose, ou une instite, je ne sais pas. C'est Mélanie, elle dit « Chez nous, les enfants vont en classe unique et chacun va à son rythme. L'un écrit en attaché, l'autre pas encore, mais peu importe, le tout est d'apprendre. C'est une vraie école de la vie. »
C'est magnifique, ça.
Classe unique, ça veut dire classe de village, école de village un peu, classe unique, c'est
exactement. Une classe unique, c'est une classe, on peut imaginer une vingtaine d'élèves, où on a mélangé des élèves de différents âges et donc de différents niveaux.
Ouais.
C'est-à-dire que qui a décidé un jour qu'il faut grouper tous les élèves de 10 ans ensemble dans une classe et tous les élèves de 9 ans dans une classe séparée? Quand ça a été décidé, en tout cas, je n'étais pas encore né. Donc ça ne s'est pas décidé de mon vivant, ça c'est sûr.
Oui.
Mais pourquoi fait-on ça?
Et c'est fou ce que vous dites là, parce que j'ai lu votre livre et vous dites historiquement, pourtant, il y en a qui ont essayé autre chose avant.
Tout à fait. Il y a un prince qui a essayé, aux alentours de la Révolution française, de prendre les enfants de la rue et de les instruire. Mais les professeurs coûtaient très cher. Oui. Et donc, pour former plus d'enfants, il s'est dit, on va prendre une centaine d'enfants pour un professeur. Alors forcément, les enfants avaient tous les âges et tous les niveaux et toutes les vitesses, donc le professeur n'a pas pu faire cours ex cathedra à ces petits sauvageons, si vous voulez ce que je veux dire. Donc il les organisait entre eux avec des assistants élèves, et ils se sont donné cours entre eux finalement, et lui était un peu le chef d'orchestre. Et la France a trouvé ça très intéressant et a embrayé là-dessus à la Révolution. Ils ont ouvert jusqu'à 2000 écoles mutuelles. Et ils les ont soigneusement toutes fermées à la deuxième moitié du 19e siècle. Pourquoi? Mais simplement parce que, à cette époque, on avait besoin, pour la révolution industrielle, d'ouvriers, d'une armée de fonctionnaires et d'ouvriers, corvéables, obéissants, et adaptés pour les tâches répétitives. Or, ces écoles formaient tout le contraire, et elles formaient des êtres très critiques, et ça ne convenait pas au régime.
Oui, c'est ça. J'étais assez impressionnée quand vous parlez, en effet, de l'école mutuelle, comme vous l'appelez, puisque c'est le mot qu'il faut employer quand on parle de ça. L'école mutuelle a existé avant et voilà, l'expérience a déjà été concluante malgré tout. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous êtes interpellé par ce qui est dit, si vous voulez, vous, simplement, en tant que parent, en tant que professeur, nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, on est ici à bâton rompu, à bâton ouvert, sans tabou, donc je pense qu'on peut, on peut prendre part à la discussion. Encore une fois, pour que ce ne soit pas polémique. On n'est pas dans la polémique, on ne parlera pas d'argent ici, on ne parlera pas de décision ministérielle, on parle simplement d'outils pédagogiques et de réflexion. 3063 pour vous, c'est votre philosophie que vous donnez ici. Voilà, votre point de vue en tout cas, et ce n'est pas un point de vue comme ça qui vous tombe du ciel, puisqu'encore une fois, c'est trois années d'études, trois années d'intérêt consacrées à l'enseignement, et puis c'est beaucoup d'expérience, ce sont des des remplacements. Et c'est vrai que vous avez vraiment rencontré aussi. Et là, au fil de vos rencontres, vous annotez des choses que vous écrivez dans votre livre. Et c'est vraiment tout ça qui fait matière, voilà, dans votre contenu. Sauver l'école, ça part d'un tas de choses, voilà, d'un tas de réflexions. Et on en apprend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le sujet. Ça fait 473 pages. Je me suis dit, ouille, je vais lire ça quand, moi. Mais c'est facile à lire, c'est facile à lire. J'ai flûté beaucoup de choses et je pense que tout le monde peut y trouver son compte, voilà, dans la réflexion que chacun a envie de mener sur la pédagogie active, sur l'école mutuelle, sont des thèmes qu'on entend un peu autour de nous, sur les outils pédagogiques à mettre en place aujourd'hui en 2015 et dans les années à venir pour peut-être motiver un peu plus aussi les enseignants, deux, les élèves, pour faire finalement pour créer un bon tissu relationnel entre tous. 070 23 33 23 SMS 3060. John Rizzo, notre invité aujourd'hui. Sauverlecole.be. Je viens de mettre son site internet sur la page Facebook. Il y a la page de couverture de son livre que je vous fais découvrir et parcourir aujourd'hui. Avec vos remplacements. John, puisque moi je me suis vraiment attardée à votre expérience, je pense que c'est celle qui m'a touchée le plus. Voilà, n'étant pas dans le domaine de l'enseignement, j'ai pas de leçons à en tirer, mais je me suis simplement intéressée à l'histoire de l'homme que vous êtes et surtout la réflexion que vous faites naître dans mon esprit. L'école expérimentale, c'est votre quatrième école que vous... Vous y restez combien de temps ?
Cinq mois.
5 mois, dans cette école expérimentale. Magnifique établissement, mais pas rempli, dites-vous, bon, pour toute une série de choses. Vous y avez une grande liberté. Et là, vous testez la classe mutuelle. Voilà, vous en parlez page 199. Vous dites, voilà, ma décision est vite prise. Je vais tester l'école mutuelle, ce système en vogue au début du 19e siècle et que nous découvrirons à loisir dans la partie 2 de votre livre. Le principe, donc, c'est bien consiste pour vous, le maître, à déléguer à une hiérarchie d'enfants la tâche d'enseigner. Et puis vous dressez un bilan. Donc voilà, vous expliquez un petit peu tout ce qui se passe avec deux lieutenants qui sont désignés.
Hein, oui,
qui sont
un garçon et une fille.
Un garçon et une fille. Des correcteurs, puisqu'il y a aussi un système de correction à mettre en place. Et puis aussi un système de récompenses. Des récompenses immatérielles qui sont les gommettes. Et vous allez en parler. Puis vous dites le constat, voilà, je ne pavoise pas après l'expérience pour toute une série de choses que vous expliquez. Voilà, je ne vais pas vous demander de tout expliquer, mais en gros, John.
Alors, c'est clair que quand je suis arrivé dans cette classe de quatrième primaire, j'ai commencé. Je savais pas que je restais cinq mois. Je pensais que je restais une semaine ou deux. Et donc, j'ai commencé de manière traditionnelle à poursuivre ce que la titulaire avait fait.
A mis en place, ouais.
A mis en place. Et donc, j'avais pour ça l'anecdote des nombres divisibles. Je leur enseigne les nombres divisibles. On fait des devoirs sur nombres divisibles, des exercices. Ils ont un contrôle annoncé. Et le contrôle, c'est au chiffre près les mêmes exercices que dans leur cahier. Patatras. Ils ratent. C'est pas terrible. Je pense qu'ils pouvaient faire vraiment beaucoup mieux. Alors, je me dis, mais en fait, la cause de ça, c'est qu'ils n'ont pas bien compris qu'il y avait un contrôle. Un contrôle de rattrapage. Là, ils auront compris, ils ont vu une mauvaise code. Ben non, c'était pas beaucoup mieux.
Ah.
Et je me suis dit, en fait, ces élèves ne savent pas étudier. Ils ne savent pas se dire mentalement, j'ai compris et je peux passer à autre chose. Non, ils se disent simplement, est-ce que ma photocopie est finie ou pas? Parce qu'ils sont tellement alimentés, un peu comme à la béquille, si vous voulez, de travail à faire. Hein. Ils ne se posent pas la question, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et non, ils reçoivent la photocopie suivante où l'institutrice parle. Qui ne sont pas à se poser la question, ok, est-ce que je suis prêt pour mon contrôle? Alors j'ai dit, voilà les gars, on va faire autrement. Je vous donne carte blanche, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez vous lever, vous pouvez changer de place, vous pouvez parler entre vous, vous pouvez même aller écrire au tableau si vous voulez. Mais vous devez me faire 80% au nombre divisible. Et dès que vous vous sentez prêt, vous venez chez moi, petit contrôle, c'est réussi, vous passez à autre chose. Mais tant que vous n'avez pas 80%, vous ne passez pas à autre chose, vous retournez et vous recommencez. Et si vous ratez, c'est pas grave, vous recommencez autant de fois que vous voulez.
Vous finissez votre assiette, quoi, c'est un peu ça.
Exactement.
On vous resserre même plat.
Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que plutôt que de contraindre le temps, toi tu as 10 ans, tu dois être en 4e primaire par exemple. Tu as 11 ans, tu es 35e primaire, etc. Plutôt que de contraindre sur le temps avec un bulletin très variable, hein, 40%, 70%, 90%, on ne sait pas. J'ai dit non, moi c'est 80% ou rien. Et ça prendra le temps qu'il faudra.
Et ça l'a pris?
Et ça l'a pris, c'est-à-dire que les plus lents ont eu le temps de vraiment assimiler la matière.
Ouais.
Les plus rapides ont amélioré leurs compétences en communication, puisqu'ils ont dû expliquer cette matière aux plus lents.
Ouais, ouais.
Et surtout, c'était pas tellement les nombres divisibles qui m'intéressaient. Ce qui m'intéressait, c'était que...
La méthode d'apprentissage.
Ils puissent apprendre à se prendre en main, finalement.
Oui, c'est ça.
J'arrive
ouais.
le matin à l'école. Ouais. Ils doivent d'abord se poser la question, qu'est-ce que je fais ?
Ouais.
Quelle matière je vais faire ? Comment je vais l'apprendre ? Est-ce que je vais lire un livre ? Est-ce que je vais regarder une vidéo ? Est-ce que je vais parler à mon voisin ? Est-ce que je vais demander au prof ? Je ne sais pas. Donc, ils doivent vraiment se poser la question. Tout comme ils se posent la question, est-ce que j'ai fini ? Est-ce que je me sens... Le nombre de fois qu'un enfant a commencé un test et puis 15 secondes après, il s'est dit, non, je ne suis pas prêt, il faut que je retourne travailler. C'est vraiment qu'il y a un processus mental qui changeait chez lui en se disant, voilà, je m'apprends à détecter quand est-ce que je suis prêt ou pas.
Oui,
et
d'accord.
ça, c'était vraiment important.
Émilie, bonjour.
Bonjour.
Vous entendez ça, Émilie, en tant qu'enseignante ?
Oui, tout à fait. Donc, justement, je voulais un petit peu réagir par rapport à ce qui vient d'être dit à l'instant. Donc, je suis enseignante dans le secondaire. Je donne cours donc à des élèves qui ont entre 12 et 14 ans. Et je donne cours d'initiation scientifique. Et c'est pas toujours évident de se, comment dire, de mettre en pratique les choses parce qu'il y a des élèves qui sont complètement fermés, qui ne vont même pas oser toucher une éprouvette en se disant « Oulala, c'est du verre, je vais le casser », alors que d'autres vont foncer, vont justement mettre un peu en péril le matériel. Donc il faut sans cesse trouver des équilibres et c'est pas du tout chose facile.
Non, en effet, c'est pas facile du tout. Je trouve que le métier d'enseignant est plus proche de l'artisanat, finalement. L'artisan qui doit trouver justement le bon équilibre dans un métier de relations humaines. Mmh. Pour moi, enseignant, c'est pas corriger 150 copies le week-end ou préparer une leçon que 1000 autres enseignants sur la planète ont déjà préparé avant lui. C'est plutôt justement, comme vous dites, cette sensibilité en classe. Mmh. Comment est-ce que je vais faire en sorte que ces élèves, d'abord, aient envie d'apprendre, et puis apprennent? Est-ce que certains vont faire plutôt de la pratique, d'autres vont plutôt regarder une vidéo, regarder quelqu'un faire de la pratique d'abord parce qu'ils sont un peu timorés, ou ils vont le faire à deux, tout seuls, voilà.
Oui. Voilà, et donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est un peu l'inverse de mes collègues. Il y a beaucoup de collègues qui trouvent certaines classes un peu insupportables, et qui donc, justement, se mettent à passer, puisqu'on a maintenant les tableaux interactifs, des vidéos qui montrent certaines expériences. Eh bien, moi, j'ai fait un peu l'inverse. C'est justement cette classe où ils sont 25, où je me suis dit, voilà, on va tester. Je vais imposer mes règles au départ. Je vais leur dire, eh bien voilà, il y a telle chose à faire, on ne mélange pas tel produit. Le premier qu'il fait aura des sanctions, mais vous avez le droit de manipuler. Le but, c'est ça, c'est de s'amuser, c'est d'essayer de faire des choses pour, au final, avoir un résultat. Eh bien, je n'ai pas eu un seul incident et j'ai reçu le cours suivant des merci. Petit chocolat parce qu'ils étaient super contents.
Ouais, ça c'est génial, ça c'est la meilleure des récompenses. C'est comme quand vous, John, vous quittez l'école et que tout le monde vous applaudit, des gamins de 7 ans qui se lèvent et qui vous applaudissent. Quoi. Ça, c'est...
Je ne m'y attendais pas.
Mais non, et donc, quand Émilie, j'adore Émilie votre témoignage en disant j'ai eu des merci. Parce que voilà, c'est déjà ça. Et moi j'adore Émilie quand elle dit voilà, moi j'ai eu envie de tester. Et je pense qu'en effet, ça c'est déjà une première chose en tant qu'enseignant, mais c'est dans tout, hein, je veux dire, et c'est parce qu'on parle de l'école, mais c'est dire voilà, je vais tester, je vais essayer cette méthode-là, on verra.
Le prof va tester et l'élève va tester aussi, c'est-à-dire qu'il faut absolument décontaminer l'erreur de la faute. Faire une erreur, finalement, ce n'est qu'une manière d'apprendre.
Mais oui, oui. 070 23 33 23 SMS 30 63 pédagogie active, enseignement mutuel, outil pédagogique quel qu'il soit que vous avez mis en place, que vous souhaitez mettre en place, que vous soyez parent, si vous souhaitez aussi nous parler de ce qui se fait dans l'école de vos enfants, venez prendre la parole. 30 63 pour vos témoins. On sauve l'école, sauver l'école, c'est le titre du livre de John Ridzouf. C'est avec un point d'interrogation que le titre est mentionné. Alors vous faites toute une série de citations, voilà, parce que vous avez lu, on le sait, vous avez rencontré beaucoup de personnes. Vous citez notamment le pédopsychiatre Marcel Ruffaut, hein, bien connu. Vous dites, enfin, il a dit, et vous reprenez ses propos, dans certaines écoles, les bons élèves sont mal vus, voire harcelés par leurs camarades au point de craindre d'avoir d'excellentes notes. Mettons un nouveau système en place, dit Marcel Ruffaut, invitons les bons élèves à aider ceux qui ont un peu plus de difficultés. Cette interaction, ce système coopératif, permettra à chacun de voir l'autre sous un jour nouveau, moins conflictuel. Il faut réconcilier les bons élèves avec les moins bons. C'est ça aussi, l'école mutuelle. Et vous faites très attention à ça.
Oui,
exactement.
En fait, j'ai vu ça comme un effet de bord, sans trop m'y attendre. Je fais des expériences et je constate. Hein, c'est un livre qui se lit vraiment comme une enquête. Et c'est aussi les parents qui viennent me raconter les transformations des enfants qui constatent à la maison que je n'ai pas vraiment pensé. Alors, c'est clair que dans une classe, quand on va dans la cour de récréation, chacun est dans son petit clan.
Ouais.
Maintenant, quand on est en difficulté académique, scolaire, et qu'on a besoin d'aide, en tant que mauvais élève, on va chercher, en tant qu'élève qui a plus de problèmes, on va aller chercher un élève qui a plus facile et qui n'est pas forcément dans son clan. Donc, c'est vrai que j'ai constaté au fil des semaines une cohésion sociale au sein de la classe extraordinaire qui a pu se former. Et la citation que vous avez reprise dit quelque chose qui me touche beaucoup, qui est maintenant, quelle est la valorisation sociale du bon élève? Est-ce que c'est pas un peu ringard, un peu frotte-manche d'être un bon élève? Or, il y a des écoles comme celle en Angleterre que j'ai visitée, où justement, tout est fait dans l'organisation pour que le bon élève soit bien vu par ses pairs.
La King Salomon Academy?
Oui, tout à fait.
C'est celle-là, oui.
Donc, c'est une école anglaise qui est au cœur, qui s'est mise exprès au cœur du quartier le plus pauvre de Londres, et qui doit prendre des inscriptions par distance par rapport à l'école, de domicile-école. Et donc, leur motto, c'est vraiment d'amener ces jeunes à l'université.
Ouais.
Quand on sait que l'université anglaise est très sélective, il faut se lever tôt pour y arriver. Et en effet, ces élèves ont une espèce de système de récompense virtuelle et de mise aux enchères de plein de choses, dont des fameux tickets de football très convoités trimestriellement. Et les bons élèves, alors, qui ont accumulé les récompenses virtuelles, pas forcément à cause de leur résultats académiques, mais aussi peut-être par rapport à leur changement de comportement, ces bons élèves se voient sur scène, se retrouvent sur scène, applaudis par leur père, vraiment mis en valeur avec leur fameux ticket de football.
C'est dingue ça, c'est dingue. Et c'est ce que vous appliquez comme système de gommettes? Vous faites ça
alors,
en classe?
Alors il y a plusieurs systèmes de gommettes en classe. Il y a un système de gommettes académique. Quand vous avez 80% nombre divisible, vous avez la gommette des nombres divisibles. D'accord. Ça, c'est le tableau le plus important pour moi. Il y a un système de gommette de sanctions, parce que j'ai pas envie de crier, j'ai pas envie de distribuer des punitions, j'ai pas envie de négocier.
Oui.
Et donc, quand quelque chose qui se passe mal, je veux aussi que les chefs de classe à qui j'ai délégué une partie de mon autorité puissent eux-mêmes sanctionner.
Ah oui.
Et donc, eux, ils donnent simplement une gommette rouge. Et alors, la gommette rouge, il faut recopier 10 lignes d'une fable de la Fontaine. C'est pas terrible. Hein, et alors, il y a les jetons d'entraide, parce que je trouve qu'il faut positiver, finalement, il faut inciter les élèves à faire des choses positives. Chaque élève, à la fin de la journée, reçoit une gommette bleue qu'il peut coller où il veut. En fait, il peut coller en face du nom d'un autre élève. Et il va choisir un élève qui l'a aidé, justement. Donc, cet élève-là m'a aidé, hop, je lui donne ma gommette bleue. Et tous les matins, on commence par une vente aux enchères, où les élèves peuvent justement acheter, par exemple, le droit de s'asseoir à mon bureau pour la journée, ou le droit de manger en classe, par exemple.
Oui, ça ne m'étonne pas que vous dites dans votre livre aussi que la directrice, quand vous expérimentez ça, puisque vous appelez ça l'école expérimentale, c'est votre quatrième expérience de remplaçant, vous dites la directrice me dit que je donne un fameux coup de pied dans la fourmilière des parents et de mes collègues, évidemment. Donc tous ceux-là viennent vous en parler. Hein. Il y a les parents qui comprennent pas trop ou qui se disent... Mais il y a les parents qui viennent dire « Waouh, ouais, il y a eu un changement de comportement à la maison, quoi ».
Tout à fait. Donc, d'abord, je n'ai pas beaucoup communiqué avec les parents pour mettre ça en place.
Tout de suite,
on me l'a déconseillé.
Ouais.
Et donc, ils sont venus après coup. Et en fait, quand ils sont venus en classe, à la réunion de parents, et que je leur expliquais les tableaux de gommettes, par exemple, qui prennent alors concrètement corps pour eux, et que j'ai parlé de leur enfant avec éloge, finalement, les plus remontés, il y avait 3-4 parents qui étaient pas d'accord, ils sont ressortis enchantés. Et tous les autres parents, dont certains ont vraiment vu une transformation chez leur enfant, par exemple, un enfant très introverti, son père m'a dit, on sent même à la maison qu'il s'ouvre au monde.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Parce qu'il a l'habitude de parler, de communiquer, d'argumenter en classe avec ses camarades.
On voit des changements de comportement. C'est là aussi que vous créez des divisions, hein, je pense que c'est ça. Il y a division 3, division 2, division 1, comme
tout
au football.
Alors, tout n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Ce n'est pas la solution miracle qui marche du premier coup. La première semaine, je n'emmenais pas large et c'était très difficile. Je raconte dans le livre pourquoi comment je remonte la pente. Alors, vers la fin, je me rends compte quand même qu'à la longue, il y a des enfants que ça insécurise. C'est-à-dire que, comme j'expliquais, venir le matin et décider ce qu'on va faire, c'est plus difficile que de subir finalement le déroulement du film.
Tout à fait. Qu'on décide à leur place et qu'on leur donne à chaque fois la page adéquate. Ouais.
Tout à fait. Ouais. Et donc, ces enfants-là, il y avait 25% de la classe, je dirais, qui n'étaient pas prêtes à gérer cette liberté que je leur avais donnée. Pour les 75%, franchement, ils auraient pu continuer dans une classe de 100 élèves pour un prof. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Et cela, à la limite, il ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ont le plus difficile. Mmh. Et ce n'est pas forcément les élèves qui ont le plus de retard scolaire.
Mmh. On aura l'occasion d'y revenir. Mais voilà, moi je m'attarde vraiment sur cette école expérimentale, cette expérience que vous avez menée dans la 4e école. 070 23 33 23. SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir vous aussi par rapport à tout ça. Et John Rizzo, auteur de ce livre, Sauver l'école, chez Care Edition. Le site est en ligne, sauverlecole.be, la page de couverture aussi. Vous étiez d'abord formé à l'informatique, hein, c'est ça? Vous êtes arrivé dans l'enseignement comment?
En fait, j'ai deux passions, l'informatique et la pédagogie, donc je raconte ça un petit peu dans le premier chapitre pour mettre le contexte, comment est-ce que j'arrive comme instituteur, comment est-ce qu'on ose me confier une classe?
C'est ce qui vous surprend, c'est qu'on vous donne la confiance, mais, quoi, qu'il vous manquait.
Et c'est quelque chose qui me paraît sain dans une société. Donc en fait, j'ai marié ces deux passions en donnant cours d'informatique simplement au sortir de l'université à des adultes et en créant une société de formation et en insistant beaucoup sur l'aspect internet. C'est-à-dire qu'on a inventé des mécaniques pour que les étudiants puissent co-construire des cours et des examens sur internet dans le domaine de l'informatique. Mmh. Donc c'est avec cette expérience-là que j'arrive donc en classe de primaire.
Vous donnez des conférences. Donc ça c'était important aussi à dire. C'est qu'on peut venir vous écouter en conférence. Vous en donnerez deux cette semaine.
Cette semaine, tout à fait.
C'est demain déjà.
Oui, demain après-midi à 15h à Oudergem.
Oui.
Donc à l'UOPC, c'est une librairie près de la station de métro Hermann de Brou. Et après-demain, donc jeudi.
À Gilly.
Pas très loin, à Gilly, à 20h.
Jeudi,
c'est organisé par l'Université Ouverte.
Donc demain 15h Oudergem, jeudi 20h Gilly. Et tout ça est sur le site sauverlecole.be. Vous dites à la page 286. Mes lectures sur l'enseignement m'ont permis de découvrir une guerre vieille comme le monde, celle qui oppose les enseignants qui versent à ceux qui allument. Et le chapitre est intitulé « Remplir ou allumer ». Les premiers voient la tête de leurs élèves comme un vase qu'il faut remplir de savoir extérieur. Les deuxièmes voient leurs élèves comme autant de mèches à embraser du feu de la curiosité afin qu'ils réinventent la connaissance. Aujourd'hui, ce conflit semble plus vif que jamais. Afin d'en comprendre les grands principes, je vous invite à une histoire schématique accélérée de la pédagogie de ces deux derniers millénaires. Évidemment, là, il reste encore 200 pages à lire. Et c'est là que vous citez Socrate, le philosophe. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Vous sentez quand vous dites que ce conflit semble plus vif que jamais, vraiment?
Oui, parce que on vient d'une culture, je dirais, où on a une pédagogie traditionnelle, où on explique, où on verse. Et je n'ai rien contre le discours de l'enseignant, l'explication de l'enseignant qui peut être extrêmement structurante finalement pour l'enfant de recevoir un exemple de discours bien mené, bien argumenté. Moi je trouve ça extraordinaire. Ce qui m'ennuie, c'est que ce discours arrive sans que l'élève ne l'ait demandé. Donc je préfère à la limite que l'élève, comme c'est arrivé en classe, vienne collectivement me supplier pour avoir une explication sur sur les divisions écrites, parce que même avec les vidéos que j'ai données, tout ça, ils voyaient bien qu'ils n'arrivaient pas à atteindre l'objectif que j'avais donné. Et donc, c'est eux qui ont choisi le chemin. Et cette fois-là, pour eux, le chemin, c'était de venir me demander une explication collective que j'ai animée avec grand plaisir. Et vous auriez dû voir, ils avaient vraiment les yeux très ouverts cet après-midi-là où j'ai fait cette explication collective. Donc, pour moi, c'est pas tellement est-ce qu'on fait une explication ou est-ce que l'élève doit réinventer finalement toute l'histoire scientifique de l'humanité lui-même. Pour moi, c'était un mix. Et c'est le métier de l'enseignant, justement, de savoir quel mix apporter. Par contre, ce qui me paraît important, c'est que l'élève le prenne. Alors peut-être que regarder une vidéo sur une tablette, c'est prendre parce que c'est moi qui ai appuyé sur le bouton play. Ça, c'est vraiment très important.
Vous allez, comme vous dites, vous avez une expérience internationale, vous allez confronter un peu ce qu'on fait ici et ce qui se fait là-bas. Vous parlez du Québec, hein, à la fin du bouquin, vous parlez d'un modèle québécois,
oui.
Vous parlez de Teach for America, vous parlez de la Finlande aussi,
oui,
vous comparez tout ça avec la Finlande. Qu'est-ce qui fait que là-bas, et au Québec, vous le dites, qu'est-ce qui fait que là-bas, outre-Atlantique, ça fonctionne, ce modèle fonctionne et pas encore chez nous, qu'est-ce qui manque?
C'est difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On peut se demander aussi, qu'est-ce qui fait une bonne école?
Oui.
Et malheureusement, il n'y a pas une chose qui fait une bonne école, sinon ce serait facile de faire 5000 bonnes écoles. Et donc, c'est 100 petites choses qui font une bonne école. Parce que, en termes scolaires, en termes d'école, dès qu'on tire sur quelque chose, par exemple, prenons l'autorité. Dès que je prends l'autorité, bah, ça touche aux parents. Ça touche aussi à la motivation des profs. C'est plus motivant d'aller dans une école où il y a de la discipline. Si on touche la motivation des profs, bah, on touche aussi au statut des enseignants qui vont plutôt dans telle école que dans telle école avec quelle mobilité.
Donc dès qu'on tire sur une ficelle, il y a plein de...
Tout est lié. Donc c'est très difficile de donner une formule magique. En gros, on a constaté que les systèmes qui s'améliorent le plus ces dix dernières années... la recette, c'est d'avoir d'abord un pouvoir stable, donc un ministre ou un chef de l'éducation, si vous voulez, pendant 7, 8, 10 ans, et aussi un événement traumatisant qui peut arriver. Ça peut être une crise économique, ça peut être un attentat comme Charlie Hebdo, par exemple, ou ça peut être comme la marche blanche a été déclencheur d'une réforme des polices chez nous.
Oui.
Alors, j'ai l'impression qu'on arrive tout doucement au bout de la logique de ce que l'école actuelle peut proposer et la quantité maximum de souffrance que les élèves et les profs et les parents sont prêts à admettre, et que voilà, peut-être qu'avec le pacte d'excellence on arrive à ce basculement justement. On verra bien l'avenir.
Vos efforts ne sont pas vains dans ce livre, vous serez écouté hautement j'espère ministériellement parlant, oui, vous aurez une écoute.
C'est encore un petit peu tôt pour en parler, ce sont des choses qui sont en cours.
D'accord, j'espère, hein, encore une fois, quand on fait tout ça, ou même dans des écoles de formation.
Mais ce qui me paraît important, c'est que les acteurs de terrain disent finalement ce qui est bon. Et ce qui est bon pour une école n'est pas forcément bon pour l'autre.
Non,
bon, je suis un grand partisan pour re-responsabiliser l'équipe pédagogique d'une école, tout comme pour les élèves. Moi, j'aime bien donner aux élèves les objectifs et leur dire, voilà, par quel chemin voulez-vous y aller. Mais je pense que pour une école, c'est la même chose. On leur donne les objectifs, par exemple, le CEB et une certaine dose de bien-être aussi. Maintenant, par quel chemin vous vouliez y aller? Et au plus, on va les contraindre avec des règles bureaucrates. Au plus, on va les déresponsabiliser. Ils vont dire finalement, bah, si ça ne marche pas, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai décidé.
Dans quelques instants, je vous lirai le message de Christine Demons qui demande un petit peu sur quelle pédagogie vous basez, et puis elle en cite quelques-unes, donc je demanderai un petit peu des témoignages à ce sujet aussi, peut-être, notamment la pédagogie de Freinet, voilà. Est-ce que certains la connaissent? Est-ce que certains l'utilisent? Est-ce que certains appuient leur mode éducatif là-dessus? 070 23 33 23 SMS 30 63. Quels outils pédagogiques, à votre avis, sont bien utilisés et où? Dans la vie du bon côté, faut-il sauver l'école? C'est la question posée dans ce livre, même si vous y répondez quand même pas mal, hein. John Rizzo, de par votre expérience depuis 13 heures, on parle avec des professeurs, des adultes, des parents, voilà. Venez nous prouver peut-être encore jusqu'à 15 heures qu'il y a quantité de profs qui ont envie de transmettre l'envie d'apprendre, mais qui ont peut-être chamboulé un peu leur méthode d'apprentissage, voilà, et ne pas s'en tenir qu'au programme. J'ai vu, malheureusement, je pense que la personne n'a pas mis son numéro de téléphone, donc je ne la citerai même pas. Peut-être souhaite-t-elle rester anonyme. J'étais enseignante, Sylvie, ne concevant pas que seul un noyau d'enfants puisse suivre aux dépens d'autres, je mettais en place des méthodes différenciées d'apprentissage. Mais on m'a reproché le manque de suivi du programme. Entre le progrès de chaque enfant ou le programme, j'ai abandonné l'enseignement.
Oui, c'est vraiment triste. En fait, si vous prenez une classe de première secondaire, c'est vraiment typique. On a là des enfants, un mélange d'enfants, dont certains ne savent pas leur table de multiplication, programme de troisième primaire, et dont d'autres vont vous dévorer des livres complexes chaque semaine. Alors, En plus, déjà au départ, ils ont un niveau différent et en plus, ils travaillent avec à des vitesses très différentes. On met ces enfants ensemble et ça, pour moi, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'on va obliger, sur contrat, l'enseignant à leur faire réussir le même examen à la fin de l'année. Mmh. Est-ce que c'est pas complètement schizophrénique? Si on prend un petit peu de recul et que des martiens regardent ce qu'on est en train de faire, on mélange des enfants qui ont un niveau très différent, qui ont des vitesses très différentes, avec un adulte dans une classe, 25 par classe, et on dit à l'adulte, voilà, tu as autant d'heures par semaine, tu dois avoir telle matière, et doivent tous réussir le même examen à la fin de l'année. Mmh. Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée, finalement?
Ouais, c'est difficile de répondre comme ça de but en blanc, parce que c'est vrai que, comme vous dites, ça peut paraître en effet complètement dingue, quoi, expliqué comme ça. Et c'est ce que vous dites aussi en présentant votre livre. Vous êtes un extérieur et vous avez la vie d'un extérieur qui est intéressé par la pédagogie et qui a voulu, en effet, non pas tout révolutionner, sûrement pas. Vous y êtes allé mollo et avec aussi beaucoup de dialogue avec le corps enseignant qui était autour de vous et la directrice de ces écoles, mais vous avez voulu tester. C'est vraiment le mot que je reçois, que j'entends, le mot test. Marianne vous dit merci. Émission enrichissante, Sylvie, je ne peux qu'espérer que les enseignants qui vous sont à l'écoute vont entrer en introspection et ainsi cesser en effet d'être dénigrés, parce que c'est vrai que finalement, on met tout le monde dans le même sac et ça aussi, c'est fou. Hein, c'est aussi dingue. Ça se passe pas comme ça partout. C'est simplement, en effet, entrer en réflexion. C'est simplement se dire, oui, moi j'ai l'impression de faire déjà pas mal de choses. Je peux peut-être encore faire mieux. Je peux peut-être encore tester d'autres choses. Et c'est vraiment ça, je pense, le but de votre livre.
Et surtout, ça se fait en équipe.
Et surtout,
on
ne
peut pas décider tout seul dans son coin.
Non, absolument.
J'ai les élèves, par exemple, en secondaire. Le pire, c'est en secondaire parce que c'est vraiment très, très cloisonné. Vous n'avez les élèves que de la troisième à la cinquième heure, par exemple. Mmh. Ils arrivent de je ne sais pas quel cours, dans je ne sais pas quel état.
Vous devez faire
voir un certain ordre dans la classe. On vous donne un local. Ils doivent être ensemble absolument. Vous pouvez pas. C'est difficile de faire des choses transversales, de faire du projet. Quand on vous impose un cadre pareil, finalement.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas la faute de l'enseignant, évidemment.
Mais non.
C'est presque. En fait, j'ai l'impression que l'école individualise l'enseignant un peu comme divisé pour régner, si vous voulez. Mmh. Et j'ai pas trouvé de complot ou de personnes qui voulaient faire ça exprès. Comme je vous l'ai dit, ça a été décidé bien longtemps avant que je naisse. J'ai l'impression qu'on est dans l'habitude d'un système. Mmh. Et qu'on n'arrivera plus à améliorer. On ne pourra pas faire mieux en faisant plus de la même chose. Il faut oser se poser la question. Voilà. D'où le titre Sauver l'école avec un point d'interrogation. Est-ce qu'il n'est pas le temps de reconstruire autre chose?
Oui. Vous savez ce que j'entends de par les émissions que je fais chaque jour. Il faut sortir de sa zone de confort.
Exactement.
Voilà, c'est exactement ça qu'il faut dire. Et ce sera sûrement le mot de la fin. Dans quelques instants, c'est Christelle qui va témoigner sur le. John Rizzo, notre invité d'aujourd'hui, auteur de ce livre Sauver l'école, il sera en conférence demain 15h à Auderghem, jeudi 20h à Gilly, c'est sur son site internet sauverlecole.be. En un mot, aussi simple que cela, il y a dans votre livre, comme je l'ai dit, des petites illustrations, des petites annotations, des petites citations, des phrases extraites comme ça d'interviews données par tout un chacun qui a à dire quelque chose sur l'enseignement. Je vois Robert Deschamps, en 2012, spécialiste des questions budgétaire, il a dit il faut revoir l'organisation de notre enseignement. En Finlande, par exemple, il y a un tiers d'enseignants en moins que chez nous. Chez eux, les dépenses liées aux frais de fonctionnement et aux bâtiments scolaires sont plus élevées que chez nous. On parlera de la structure dans quelques instants grâce à votre témoignage. Christelle, bonjour.
Oui, bonjour Sylvie.
Structure, en parlant de structure, vous parlez de votre petite fille, toute petite, 4 ans et demi, mais bon, qui deviendra grande aussi, qui par la suite sera peut-être habituée à ce genre de structure. Vous avez eu besoin pour elle d'une petite structure. Et là, on va parler de la taille, peut-être, des classes, des écoles, Christelle.
Oui, donc en fait, Morgane a 4 ans et demi. Et il s'avère que Morgane a un retard de développement global. Donc jusqu'à au mois de septembre dernier, Morgane ne marchait pas, Morgane ne parlait pas. Et donc, après une batterie de tests qui s'est avérée négative, donc on ne sait pas ce qui se passe dans le développement de Morgane, on s'est posé la question de la scolarisation. Morgane a d'abord été scolarisée dans l'école de ses frères et de sa sœur donc une école qui était au début une école de village, mais qui s'est avérée grandir jusqu'à devenir une école de presque 296 élèves. Et donc l'année passée, on m'avait offert, on s'était déjà très très bien, une matinée par semaine pour Morgane. Mais bon, ce n'était pas suffisant pour son évolution. Et bon, cette classe a quand même terminé à la fin de l'année scolaire avec 33 élèves, donc c'était impossible pour Morgane de continuer là-bas. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu l'infirmière du PMS, Morgane ne pouvait pas s'inscrire dans l'enseignement spécialisé, et de toute façon, l'enseignement spécialisé, il n'y a pas de classe de maternelle. Donc nous avons trouvé dans le village d'à côté une école vraiment à dimension humaine, donc une école où se réunissent les élèves de maternelle. Donc il y a 14 élèves en maternelle et 12 élèves en primaire. Donc voilà, Morgane est inscrite depuis le 1er septembre là-bas. Elle marche maintenant, elle commence à dire des mots, à dire des phrases, elle chante des comptines. Je voulais profiter de ce témoignage pour rendre hommage à cette école, parce que, comme je le disais à votre collaboratrice, en fait, ce sont souvent, en tout cas, ce que je remarque, ce sont des initiatives qui viennent des directeurs d'école. Parce que, je ne sais pas, en tout cas, il n'y a pas... moi, je le sens en tant que maman, et je me documente beaucoup, il n'y a pas vraiment de volonté politique pour intégrer des enfants comme Morgane dans l'ordinaire.
Ce qui est intéressant... Oui, allez-y, terminez votre phrase, Christelle.
Et c'est très difficile pour des parents comme nous, parce que Morgane, ne pouvant pas s'inscrire dans un type de handicap particulier, elle ne peut pas être intégrée dans une école spécialisée. Elle est en constante progression. Donc vraiment, je pense qu'il y a un problème au niveau des structures. Et tant que, j'ai envie de dire, tant qu'on ne donnera pas les moyens aux enseignants d'organiser leur classe, parce que, je ne sais pas si vous imaginez, finir avec 33 élèves, enfin 33 petits bouts à la fin d'une année, et avoir une élève qui a des problèmes de développement comme Morgane, c'était... Un vrai crève-cœur, moi j'ai vu dans les yeux de l'institutrice l'année passée, quand elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas garder Morgane. Mm-hmm. Et je sais qu'elle l'aurait voulu pouvoir garder Morgane là-bas avec ses frères et sa sœur, mais...
Christelle, ce qui est intéressant, je vais devoir vous couper parce que sinon on n'aura pas le temps de prendre la parole par rapport à ça, mais on comprend très bien ce que vous voulez nous dire. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de parler de ce qu'on appelle les écoles à échelle humaine, à taille humaine, les structures, enfin voilà, de façon générale et pas uniquement sur le cas de Morgane.
Il y a deux questions ici, il y a la taille de la classe et la taille de l'école. En général, la littérature dit qu'une école de taille idéale est fait entre 300 et 450 élèves. Si elle est plus grosse, il faut la compartimenter pour qu'il y ait une relation entre les profs et les élèves, finalement, qui puisse se tisser. S'il y a trop de profs qui voient trop d'élèves, il n'y a pas de réelle relation possible. Au niveau de la taille de la classe, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à dire. On peut se demander, est-ce que... prenons l'exemple des élèves un peu plus âgés, parce qu'en maternelle, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de manutention, de si je puis dire, à faire. Oui. Il faut faire attention pour la sécurité, mm-hmm, il faut beaucoup de bricolage. Mm-hmm. Mais prenons le cas du primaire et du secondaire. Qu'est-ce qui empêche un enfant qui a du retard, et qu'on sait qu'il va garder ce retard, même s'il va avancer le plus vite possible, d'être avec le reste de la classe? Mm-hmm. Mais c'est simplement le fait qu'on exige que toute la classe avance de manière simultanée vers les mêmes examens à la fin de l'année. C'est pas autre chose. Dans ma classe, j'avais une jeune fille, chapitre 6, qu'on appelle dans le livre Sereine, et qui a 12 ans, qui est en quatrième primaire, qui a un niveau de deuxième primaire. Mais elle a l'extrême faculté de pouvoir se concentrer des heures sur son travail. Et donc, elle progresse très bien, et elle n'a pas beaucoup besoin de moi. Donc, elle est en retard, elle est lente, mais elle n'a pas beaucoup besoin de moi. Alors qu'un petit HP qui apprend très vite, mais qui ne sait pas tenir en place et qui ne sait pas se mettre au travail, lui, il est un peu il pourrait être en avance, il pourrait aller très vite, mais il a beaucoup besoin de moi. Donc, il ne faut pas confondre... la vitesse ou le retard de l'élève avec le taux d'encadrement qui est nécessaire. On en revient en division 2 et 3 dont on parlait tout à l'heure. À la fin du livre, je me rends compte que un quart des élèves a besoin d'une transition parce qu'ils sont pas capables de gérer leur liberté. Et peut-être que cette transition, c'est à faire un peu plus de sport, faire des heures moins longues, peut-être être obligé finalement à se mettre à un certain travail parce que le prof est derrière et regarde. Je ne suis pas naïf, hein, on voit dans le livre que je suis quand même d'une exigence crasse.
Je pense.
En termes de résultats escomptés, en tout cas. Donc c'est pas juste voilà les enfants, l'école c'est le bonheur, faites ce que vous voulez. Non, surtout pas. Vous avez des objectifs, maintenant vous choisissez le chemin pour atteindre ces objectifs. Et dans le cas de madame, ce que vous avez l'air de dire, madame, c'est que dans l'école d'un classe de 14 élèves, ça s'est bien passé parce que justement la différence de niveau au sein de la classe est acceptée.
Oui. On parlera de la fin là en d'après. Hein, j'aimerais quand même bien vous demander comment ça se passe là-bas puisque vous le savez en plus. Et peut-être ce qui pourrait être envisageable en Belgique en matière de structure, de nombre de professeurs. Enfin bref, il y a des expériences, vous venez de me dire, qui sont quand même menées aussi en Belgique par rapport à ça. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez prendre la parole par rapport aux nouveaux outils pédagogiques, on va les appeler comme livre. 473 pages. À quel moment est-ce que vous avez dit « je m'arrête » Je ne peux pas dépasser les 500.
En fait, j'ai retiré pas mal de pages.
Oui, je m'en doutais. Je pose la question en me disant, à mon avis, il y en avait certainement le double. À voir la façon facile dont tout ça est écrit. Et encore une fois, c'est facile à lire. Donc ça, c'est génial. C'est facile à lire.
C'est mon éditeur qui m'a appris à écrire, en fait.
Ah ben,
il a passé beaucoup de temps, ça. Parce que je suis un mauvais élève.
Très bon coach, alors. Très bon coach. Parce que c'est sûr que moi aussi, je me dis, oulala. Et puis finalement, ben, j'ai pas eu envie de le quitter. Voilà. Et surtout la première partie, parce que il y a l'humain. Vous racontez. Voilà. Vous racontez un peu comment vous arrivez en classe. Et moi, j'aime bien quand vous dites, voilà, les élèves m'ont applaudi. Quand j'ai quitté l'école, les élèves, ils sont levés. Ils avaient 7 ans. Et ils m'ont applaudi. Enfin, j'imaginais la scène, quoi. Je me dis, waouh.
Ça, je peux vous dire qu'au niveau émotionnel.
Ah ouais,
c'est
attends,
un souvenir.
Attendez, waouh. Ça m'a fait penser un peu au poète. Au cercle du poète, des poètes disparus, évidemment.
Oui, et dans l'école suivante, ils ont une autre réaction. C'est-à-dire qu'à la fin, quand c'est la dernière minute de cours, si je puis dire, je leur demande de se lever. Je leur fais un petit discours sur leur vie future, en leur espérant le meilleur. Et puis, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux-là?
Ouais.
Eh bien, il y en a un qui a couru vers moi et qui m'a fait un gros câlin. Et en quelques secondes, toute la classe s'est agglutinée à moi et j'étais au centre d'un immense câlin géant.
Wow.
Ça aussi, c'est un souvenir extraordinaire.
Et ça aussi, quand je lis aussi deux élèves qui vous ont remercié pour leur avoir permis de faire des maths sur le temps de midi.
Oui, c'est-à-dire que j'avais capturé la classe de ma collègue.
Ah oui.
Dans ma quête d'expérience, j'avais envie de donner les cours à deux classes en même temps.
Voilà.
Et donc, j'ai profité d'une absence annoncée pour vite aller à la cour de récréation et prendre tous les élèves avant qu'ils se répartissent dans les autres classes. Donc, je raconte ça dans le chapitre 6. Et puis, je file en haut. Et ça se passe très bien finalement. Alors les élèves de ma collègue s'attendaient à ce que je leur donne quelque chose de précis à faire. Je leur dis bon voilà, vous faites telle et telle et telle et telle et telle page de votre livre de maths, de votre cahier d'exercice de maths, et puis basta. Ils disent oui mais comment est-ce qu'on va apprendre? Ben, je dis il y a sûrement l'un d'entre vous qui sait ce qu'il faut faire, il va montrer aux autres. Et si vous savez pas, vous demandez à mes grandes quatrièmes, je vous en donne un, voilà, prenez, débrouillez-vous. Et donc, ça s'est très, très bien passé. Mais à la fin, j'avais dit, il reste quelques petits exercices pour l'une ou l'autre. Vous les terminerez cet après-midi à la maison. C'était un petit devoir. Et ou le soir, enfin, peu importe. Et alors, il y a deux élèves qui me demandent, est-ce qu'on ne peut pas faire ça plutôt sur le temps de midi, des exercices, parce qu'on n'a pas envie de les faire à la maison. Je dis, je les regarde, je fais, pourquoi pas, prenez votre cahier à la cantine, si vous voulez, moi, j'ai rien contre. Et alors, elles viennent nous interrompre dans la salle des profs.
Oui, c'est ça, devant tout le monde.
Après le repas, elles passent devant tout le monde, elles viennent chez moi. Et elles font... Et elles me remercient seulement de leur avoir permis de faire leur maths sur le temps de midi. Alors que ce n'étaient pas forcément des bonnes élèves. Je ne crois pas qu'elles étaient championnes ou assidues en maths particulièrement. Mais voilà, comme elles avaient pu décider finalement elles-mêmes de faire elles étaient très motivées pour le faire.
Et ben voilà, voyez encore une fois le pouvoir de décision quand il est bien donné, et voilà, il est peut-être bien compris aussi, bien perçu. 3063 si vous souhaitez témoigner dans cette émission. Sauver l'école, point d'interrogation, c'est chez Care Édition, ce livre de John Rizzo, notre invité depuis 13h, avec qui on mène vraiment la réflexion sur le sujet, témoignage dans quelques instants, réflexion tout simplement personnelle, question aussi que j'aurais à vous poser par rapport à la taille des classes. Voilà, on a parlé il y a quelques instants avec Christelle d'école à échelle humaine et les classes à échelle humaine. Qu'en est-il? Quelle est peut-être la classe idéale? Est-ce qu'il y a une classe idéale? C'est la question que je vous poserai dans quelques instants. John, 070 23 33 23 SMS. John Rizzo, quand vous alignez les mots école et idéal, l'école idéale, c'est à la page 336, quand vous discutez avec le directeur d'une école normale wallonne, à qui vous demandez pour toi Yves, puisque vous le prénommez Yves, quelle est pour toi l'école idéale? Et il vous dit l'école parfaite, c'est une école à taille humaine. Donc c'est déjà la première chose qu'il vous dit. Il faut absolument éviter de mélanger plus de 500 élèves sur un même site, vous l'avez dit, sans quoi ils deviennent étrangers entre eux. Il dit aussi l'école idéale est aussi un lieu flexible où l'enseignant ne se limite pas à son diplôme et à son domaine de spécialité. Idéalement, dit-il, chaque professeur doit pouvoir se montrer aussi polyvalent qu'il le souhaite et que son expérience le permet, afin que chacun profite au maximum des capacités des autres. Alors, une chose à la fois, la taille de la classe, en général, c'est quoi? C'est 25 élèves, un professeur, une classe. Qu'est-ce qu'on peut faire de
pour
plus,
moi,
de mieux?
La taille idéale d'une classe, ça dépend beaucoup des élèves et du prof aussi. Donc il y a pas une seule réponse à cette même question. Et parfois la réponse est très surprenante, comme par exemple dans cette école qui n'est pas dans le livre malheureusement parce que je l'ai vu après, cette école bruxelloise, Saint-Joseph de Boundal, à Ixelles, où les enseignantes il y a quelques années, elles ont décidé d'abattre les murs entre les classes.
Ah oui.
Donc il y avait un mur pour le couloir et un mur entre classes. Ils ont abattu les murs entre classes et
ils ont fait un paysager quoi.
Ils ont fait un grand paysager. Et ils ont mis 70-80 élèves ensemble dans une même grande classe, qui ne regardent pas le tableau évidemment, qui regardent leurs feuilles, qui s'entraident, qui se regardent les uns les autres. Et il y a 4 institutrices.
Ensemble aussi alors.
Qui sont ensemble dans la même classe, dont une néerlandophone. Ça fait une petite immersion pour les enfants. Et elles vont aller d'enfant en enfant, de petit groupe en petit groupe, aider, susciter, motiver, répondre aux questions. Donc, quand on se demande, tiens, quelle est la taille idéale d'une classe, il faut peut-être, avant ça, prendre un peu de recul et se demander, c'est quoi une classe? Dans ce cas-ci, on a physiquement un grand local avec beaucoup d'élèves, il n'y a pas beaucoup de bruit, curieusement.
80 dans la même pièce.
J'ai été filmé, ils ne sont pas contraints, il n'y a pas des gardes armés le long des murs. Non, ils sont calmes, ils chuchotent entre eux, ils font leurs exercices. Ils ne font pas tous la même chose. Ils demandent de l'aide aux instituts, ils lèvent le doigt. Donc, il y a vraiment...
C'est comme une grande bibliothèque, je vois
c'est
ça comme une
grande bibliothèque. Exactement. Oui. C'est comme une grande bibliothèque où l'enseignant est du côté de l'élève, finalement. Il y a un but qui est d'apprendre quelque chose, et l'enseignant est un petit peu au service de l'élève, si je puis dire. Alors, ça ne marche pas avec tout le public. Par exemple, dans le chapitre, parce que certains des auditeurs vont hurler, et ils auront raison.
Oui, hurler.
Dans l'école fantôme du chapitre 5, j'avais que 3 élèves.
On n'en a pas parlé beaucoup.
Et d'ailleurs. J'avais très très dur. Oui. Donc c'est très très spécial. Hein. Je comprends que ça concerne qu'un tout petit pourcentage de la population, mais être prof ici n'est pas le même métier que d'être prof là-bas. Oui. Donc j'ai beaucoup de compréhension et de compassion envers les enseignants à qui on essaye d'imposer des règles communes ou de dire voilà, l'école idéale ça doit être ça. Moi je préférais que chaque enseignant ou chaque équipe pédagogique se pose la question, mais qu'est-ce que l'école idéale pour moi? Et peut-être qu'avec assez de recul et assez d'esprit de corps, ils pourront se dire, l'école idéale pour moi c'est abattre les murs. Par exemple, ou aller donner cours en forêt, enfin peu importe.
Non, parce que c'est vrai que tout n'est pas rose. On n'a pas parlé de cette école calvaire, entre guillemets, vous avez démissionné, où c'était pas possible, mais vous avez quand même essayé de mettre en place des choses, notamment des cadres, avec trois terreurs, comme vous les appelez, où vous avez essayé vraiment d'avoir des liens affectifs avec les élèves, et vous en avez eu. Et puis, à un moment donné, ben voilà, c'était plus votre mission. En tout cas, c'était, voilà, vous deviez, votre mission était ailleurs. On ne vous demandait pas non plus de faire tout, quoi, hein. Vous ne pouvez pas non plus tout faire à un moment donné. Bernadette, bonjour.
Bonjour Sylvie.
Ça vous interpelle, je pense. Et vous touche, hein, ce qu'on dit là aujourd'hui.
Tout ce qui touche aux enfants m'interpelle de toute façon.
Ouais.
Alors, il m'est venu une petite phrase et je vous l'ai envoyée et on m'a contactée. Voilà.
Mais voilà, vous dites quoi? Vous dites quoi votre petite phrase?
Elle dit simplement ceci: si vous jugez un poisson rouge à sa façon de grimper aux arbres, toute sa vie il croira qu'il est stupide.
Voilà. C'est Albert Einstein, ça, non?
Oui, je crois.
Ah, c'est pas mal ça. Si vous jugez un poisson rouge à sa façon de grimper aux arbres, toute sa vie il croira qu'il est stupide.
Ouais, oui.
Tout à fait. Il y a certainement un socle commun qu'il faut pour tous les enfants. Ils doivent savoir lire, doivent savoir écrire. Doivent-ils savoir les nombres divisibles? Il faut voir. Pour moi, c'est encore matière à discussion. Mais au-delà de ce socle commun, si certains sont plus à l'aise à acquérir des compétences musicales ou artistiques, d'autres sont peut-être plus à l'aise à acquérir des compétences d'ingénierie, à construire un petit robot, par exemple. Voilà, donc, si on veut allumer le feu, si on veut que les enfants apprennent, finalement, les nombres divisibles, c'est pas important. Ce qu'ils doivent apprendre, c'est à faire un effort assez long, que pour avoir la petite dose d'endorphine que leur cerveau leur donnera quand ils auront appris, que pour attendre cette récompense, sans pour autant avoir la promesse d'une récompense externe comme des points ou même pire, de l'argent.
Mmh. 30-63, 10 minutes encore de réflexion et de contribution à cette matière qui est pour nous l'enseignement aujourd'hui. Colle avec un point d'interrogation, vous auriez pu en mettre deux parce qu'encore une fois, vous n'avancez pas ce qu'il faut faire, vous posez des questions. Vous avez vécu l'enseignement comme une expérience enrichissante et aujourd'hui, voilà, grâce à des rencontres, grâce à des lectures, grâce à votre intérêt pour ça, parce que je sens qu'il y a vraiment, voilà, vous êtes dedans maintenant, hein.
Oui,
vous pouvez plus faire marche.
Je dois saluer tous les acteurs de l'enseignement que j'ai rencontrés. Ils sont extraordinaires, ils m'ont appris des choses extraordinaires et ils font toujours preuve d'une passion extraordinaire.
Ouais. Et donc c'est ça, le mot de la fin, c'est positif, quoi. C'est de dire qu'il y a de bonnes choses qui sont faites. Vous avez parlé d'école de Boundal, là, par exemple, il y a quelques instants.
Tout à fait. Hein. Donc, ne soyez pas naïfs, l'enseignement va mal. On a commencé une émission comme ça. Beaucoup de gens souffrent et beaucoup d'auditeurs auraient pu appeler en disant « Moi, je suis enseignant, moi, je suis élève, je suis parent. » Et cette souffrance, je l'ai vraiment constatée à beaucoup d'endroits. Pas dans toutes les écoles, pas de la même façon dans chaque école. Mais il existe des solutions. C'est documenté, ça existe, c'est peut-être encore expérimental, c'est peut-être pas dans tous les pays. En tout cas, ça ne coûte pas plus cher. Ce dont on a parlé aujourd'hui ne coûte pas plus cher. Il faut juste se dire que il y a cette souffrance, pour moi, elle naît d'un clash entre la société du XXIe siècle et la structure d'attente du 10, ou non, l'organisation en tout cas d'attente du 19e de l'école. Et quand on aura réussi cette transition de l'école, finalement, je pense que ça ira beaucoup mieux. Et donc, c'est un message d'espoir, finalement.
Mais oui. Vous connaissez la fable du petit colibri qui veut éteindre un feu et qui emmène à chaque fois, qui fait des allers-retours avec trois gouttes d'eau dans son bec.
Tout
le monde dit, enfin, c'est pas comme ça que tu vas éteindre l'incendie. Il me dit, mais non, mais je fais ma part. Je ne peux pas en faire plus, quoi. Non, mais j'adore cette fable, je la sors souvent, mais c'est un peu ça, quoi.
Tout le monde peut y mettre du sien. Il y a beaucoup d'associations que j'ai rencontrées, par exemple, autour de l'école qui aident les écoles. Et peut-être que je suis un des petits colibris qui essaye de les fédérer pour qu'elles mettent les gouttes sur le même incendie, qu'une forêt aille mieux et que les autres forêts se disent à côté, nous aussi, on veut aller mieux.
Mais écoutez, regardez, on vient de faire de la poésie comme ça en commun. Voilà, je vous parle du petit colibri et directement, vous avez pris cette fable en cours et vous l'avez mis à votre sauce. Et c'est tout ce que je souhaitais. Merci beaucoup, John Rizzo.
Merci de m'avoir invité.
Vraiment, j'espère que ce bouquin va avancer. Voilà, vraiment. Et va mener loin. Dans quelques instants, ne bougez pas, c'est l'émission Les Retours qui s'installe juste après le flash de 15h et le point météo.
Retrouvez tous vos programmes sur www.vivacité.be.